Oh, du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, se faire une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pilice, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, dans l'Évangile selon Saint Luc, nous en sommes au chapitre 15, au verset 11. Donc nous allons expliquer cette magnifique parabole de l'enfant prodigue. C'est partie de ces parties de l'évangile qui ont été beaucoup commentées par les pères. Donc il y a pas mal de choses. Vous verrez, c'est passionnant de voir comment les pères de l'Église interprètent cette parabole. Il faut dépasser l'aspect historique, l'aspect littéral du texte pour monter justement au sens mystique, au sens caché, que ce soit au sens allégorique, au sens anthropologique ou au sens anagogique. Sur le polycopier qui couvre les chapitres 11 à 15 de Saint-Luc, nous en sommes à la page 40, en haut de la page. Donc voilà ce début de texte, chapitre 15 de Saint-Luc, verset 11. Notre Seigneur Jésus-Christ commence sa parabole en disant « Un homme avait deux fils ». Ces deux fils, nous expliquent les pères de l'Église, représentent plusieurs choses. Un petit peu selon les pères. D'abord, cela peut représenter les deux peuples, des juifs et des gentils. D'une part, il y a l'aîné qui est toujours resté avec son père, et puis il y a le jeune qui s'est fait influencer par les idées modernes et qui veut son indépendance. Donc l'aîné qui est toujours resté avec son père symbolise les juifs. Le plus jeune, au contraire, le peuple des gentils, qui ont adoré Dieu dans les jours d'Adam et de Noé, qui se sont détournés des idoles et du péché de la chair. Le peuple juif murmure contre les gentils qui sont reçus dans la grâce et la faveur du Christ. Donc d'un côté, vous avez un peuple qui a toujours été avec Dieu, dans l'Ancien Testament, le peuple juif. Et d'autre part, vous avez le peuple des nouveaux venus, le peuple des gentils, donc des païens qui trouvent la grâce du bon Dieu et qui sont reçus dans le giron paternel comme les juifs. Et les juifs, évidemment, sont jaloux de ces nouveaux venus qui vont prendre une partie, si vous voulez, de leur autorité. Et c'est pour cela, nous disent les pères, que ce peuple juif va murmurer contre les gentils qui sont reçus dans la grâce et la faveur du Christ. Évidemment, on peut transposer ça aussi chez les catholiques. Il y a des catholiques qui ont toujours été catholiques depuis le berceau, des catholiques de longue tradition. Et puis, il y a parfois des païens qui arrivent beaucoup plus tard, qui sont convertis avec la grâce du bon Dieu, qui sont baptisés, et qui vont être reçus dans la famille du Christ avec un amour extraordinaire de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qui ont toujours été catholiques vont être en quelque sorte dépassés par la charité de ces nouveaux arrivants. Selon d'autres pères de l'Église, l'aîné de ces deux fils, celui qui a toujours été fidèle à la maison paternelle, représente les anges. Mais le plus jeune, qui est parti pour un long voyage, quand il tomba du paradis sur la terre, symbolise Adam dans sa chute. Les deux frères représentent également les justes et les mauvais, qu'ils soient juifs ou gentils, car les pécheurs qui accompagnaient le Christ ont causé le murmure des pharisiens contre le Christ et ils étaient juifs. Donc c'est intéressant de voir que d'après certains pères, cette parabole du jeune du plus jeune des deux fils qui quitte la maison paternelle pour tomber dans le péché le plus complet, le plus abject, représente justement Adam qui perd sa place au paradis terrestre et qui va tomber dans le péché, mais à qui Dieu va donner une deuxième chance et qui va finir, avec la grâce du bon Dieu, par revenir à notre Seigneur Jésus-Christ. Selon saint Augustin, page 40, le Père qui a deux fils et Dieu qui a deux nations, qui sont comme les racines de la race humaine. Le premier représente ceux qui sont restés dans l'adoration de Dieu, l'autre ceux qui ont abandonné Dieu pour adorer les idoles. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est le point fort de ce passage, c'est que Dieu va donner, va considérer, si vous voulez, va donner les mêmes chances à ceux qui sont les ouvriers de la première heure et à ceux qui sont les ouvriers de la dernière heure. Rappelez-vous la parabole de ces ouvriers qui sont envoyés à la vigne. Certains ont porté le poids de la chaleur, le poids du jour, toute la journée, et d'autres sont arrivés au dernier moment à la fumée des cierges. Et tous les deux, tant ceux qui ont travaillé toute la journée sous la chaleur du soleil que ceux qui sont arrivés complètement à la fin de la journée de travail, tous les deux vont recevoir le même salaire, à savoir un denier. Cela représente, explique justement la charité extraordinaire de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est prêt à donner aux derniers arrivants le même salaire qu'il va donner aux premiers arrivants, c'est-à-dire ceux qui étaient là depuis le début. Et donc, la récompense, le denier, c'est le symbole du paradis. Donc, Dieu va donner la possibilité du paradis tant à ceux qui ont toujours été là, qui ont toujours été dans l'Église, qu'à ceux qui arrivent au dernier moment. L'important, c'est au moment de la mort, d'être unis à Dieu par la vertu de charité. Et ceci doit être une source de réconfort pour beaucoup de gens, tous ceux qui viennent parfois, qui arrivent très tard et qui nous disent « Voilà, monsieur l'abbé, moi j'étais un païen toute ma vie et maintenant je me rends compte que notre Seigneur Jésus-Christ est l'unique vrai Dieu, que l'Église catholique est l'unique véritable Église, mais comprenez, monsieur l'abbé, moi j'ai 60 ans, j'ai 65 ans, j'ai 70 ans, est-ce que c'est pas un peu trop tard ?» La réponse est non, il n'est jamais trop tard, parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et à partir du moment où les gens cherchent vraiment Dieu, ils vont pouvoir trouver, recevoir de Dieu toutes les grâces dont ils ont besoin pour se convertir réellement. Donc, d'après certains pères, l'aîné de ces deux fils représente les justes, et ceux, comme les scribes, qui prétendent l'être. Le plus jeune, le prodigue, symbolise les pécheurs notoires, tels que les publicains, les femmes de mauvaise vie, que le Christ va tirer de leurs erreurs. N'oubliez pas que certains des plus grands saints de l'histoire de l'Église, je pense à saint Augustin, à sainte Marie-Madeleine, sont devenus de très grands saints, mais étaient tombés très bas avant leur conversion. Saint Augustin, avant sa conversion, vivait dans le concubinage le plus complet, il vivait avec une femme, sans être marié, il a eu un enfant hors mariage, Adéodate. Il s'était même embarqué dans une hérésie épouvantable, le manichéisme. Quant à sainte Marie-Madeleine, elle était pratiquement devenue une femme publique, elle vivait aussi, elle aussi, en concubinage avec un soldat romain. Et le bon Dieu a eu pitié de ces deux personnages et en a fait de très grands saints. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ceux qui viennent de très bas sont parfois montés bien plus haut que ceux qui ont toujours été élevés dans la foi catholique. Et prenons le cas de saint Augustin, de sainte Marie-Madeleine, ces deux saints sont arrivés bien au-dessus de ceux qui ont toujours été catholiques. Et c'est un point extrêmement important, j'en parle souvent parce que beaucoup de gens ont du mal à comprendre et accepter cette doctrine, mais il faut comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ est plein de miséricorde, il ne souhaite qu'une seule chose, c'est que tous les hommes soient sauvés. De volonté antécédente, dit saint Thomas, il veut le salut de tous les hommes, même si de volonté conséquente, seuls ceux qui sont unis à notre Seigneur Jésus-Christ par la vertu de charité peuvent être payés, peuvent être sauvés. Donc il ne faut jamais, jamais se décourager. Et on voit très bien comment le peuple juif, qui était le peuple élu de l'Ancien Testament, malheureusement, au moins pour une grande majorité d'entre eux, pas tous, mais une grande partie des juifs de l'Ancien Testament, ont refusé l'arrivée du Messie, alors que celui-ci pourtant avait été annoncé par des multiples signes, que notre Seigneur Jésus-Christ avait prouvé sa divinité par les miracles qu'il a accomplis, en remplissant toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Et finalement, les Juifs vont être doublés sur la corde, littéralement, par le peuple des païens qui va devenir le peuple des catholiques. Donc on peut dire, j'ai déjà expliqué ça souvent, mais c'est très important de bien le comprendre. On peut dire et on doit dire que le peuple juif était le peuple élu de l'Ancien Testament. Mais ce peuple ayant été infidèle, au moins dans son immense majorité, eh bien, un autre peuple est venu prendre la place, à savoir le peuple des catholiques. Le peuple catholique est le nouveau peuple élu, mais cette fois-ci dans le Nouveau Testament et plus dans l'Ancien Testament. Alors, c'est assez compliqué parce que, est-ce qu'on peut dire, par exemple, j'en ai déjà souvent parlé, mais j'en parle parce que c'est un peu le sujet, est-ce qu'on peut dire que le Dieu des Juifs de l'Ancien Testament était le vrai Dieu? La réponse est oui. Les Juifs de l'Ancien Testament adoraient le vrai Dieu. Mais est-ce que les Juifs d'aujourd'hui adorent toujours le vrai Dieu? La réponse est non. Parce que les Juifs d'aujourd'hui refusent notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ils refusent la deuxième personne de la Sainte Trinité. Notre Seigneur Jésus-Christ s'est incarné il y a 2000 ans. Et les Juifs qui sont restés Juifs refusent cette deuxième personne. Donc ils refusent Dieu. Donc le Dieu des Juifs du Nouveau Testament, des Juifs actuels, n'est pas le vrai Dieu. Il ne faut pas pour autant que les catholiques se considèrent comme sauvés à coup sûr. Non, pas du tout. Parce qu'ils doivent aussi vivre en état de grâce et mourir en état de grâce pour être sûrs d'être sauvés. Et puisque Dieu a substitué le peuple catholique au peuple juif, il peut aussi substituer au peuple catholique qui est devenu de plus en plus faible par les temps qui courent, il peut très bien substituer à ces catholiques qui sont devenus tièdes et même froids dans leur cœur et dans leur âme, il peut très bien leur substituer un autre peuple qui va venir prendre la place, pardon, des catholiques qui sont devenus trop faibles, et on le voit très bien aujourd'hui. Je suis toujours heureux de voir le nombre de païens, de gens qui ne sont pas baptisés, qui viennent par exemple faire la traite et qui, avec la grâce du bon Dieu, trouvent le chemin du paradis, trouvent le chemin de l'Église et se font baptiser. Et souvent, c'est ça qui est triste à dire, mais c'est le cas, souvent ces païens convertis fraîchement ont plus de générosité que les catholiques qui ont toujours été catholiques. Alors attention, il ne faut pas croire que parce que je suis baptisé, je suis sûr d'être sauvé. Non, le baptême ne suffit pas au salut. Il faut la vertu de charité. La vertu de charité, certes, est donnée par le baptême, mais elle peut être perdue, elle est perdue par le péché. Et si je commets un péché mortel après le baptême, je perds la vertu de charité. Et pour la récupérer, il faut des grâces spéciales, des grâces actuelles qui m'amènent au confessionnal ou qui m'amènent à la grâce d'un acte de contrition parfaite pour retrouver l'amitié du bon Dieu. Selon Théophylacte, les âmes qui arrivent au salut se divisent en trois classes. Première classe, ceux qui font le bien simplement par crainte du jugement. C'est à ces âmes que David prête ses paroles, pénétrez mes chers de votre crainte, car j'ai peur de vos jugements. C'est ce qu'on appelle la contrition imparfaite. Attention, la contrition imparfaite est suffisante pour le salut. Qu'est-ce que c'est qu'une contrition imparfaite? C'est le regret de ses péchés par peur de l'enfer. N'oubliez pas qu'il y a 3 degrés, si vous voulez, de contrition. Contrition, c'est quoi? Contrition, ça veut dire le regret. Bon, un regret, pour être efficace, doit avoir 2 caractéristiques. D'abord, une véritable douleur, une vraie douleur, pas une douleur de surface, une douleur interne, surnaturelle, universelle. Et cette douleur, ce qu'on appelle une douleur, ce n'est pas la seule condition. Il faut la douleur, mais il faut aussi, avec cette douleur, pour qu'il y ait une véritable contrition, il faut avec cette douleur ajouter un ferme propos de ne pas recommencer et d'éviter les occasions prochaines volontaires de péché mortel. Si j'ai à la fois la douleur de mes péchés et la ferme volonté de ne pas recommencer, de prendre les moyens pratiques pour éviter le péché, alors à ce moment-là, je peux recevoir la grâce du bon Dieu. Donc il y a 3 degrés de contrition. Le premier degré, c'est une contrition qu'on appelle servile, contrition de l'esclave. Je ne regrette pas finalement mon péché. C'est le cas des gens qui vont mourir, qui sentent qu'ils vont mourir, qui demandent l'arrivée du prêtre, qui se confessent, mais on sent très bien qu'ils ne regrettent pas leur péché. Ils regrettent simplement une seule chose, c'est le fait qu'ils vont mourir. Et ils nous disent, Monsieur l'abbé, je me confesse parce que je vais mourir. Et quand on pose la question, mais si vous arriviez à survivre parce que on trouve un nouveau médicament qui vous sauve la vie, est-ce que vous changeriez de vie? Ah non, monsieur l'abbé, je retournerai à ma vie passée parce que la seule raison qui m'oblige moralement à me confesser, c'est le fait que je vais mourir. C'est une contrition servile, ça vaut rien pour le ciel. Le minimum, c'est la contrition imparfaite, regretter ses péchés par peur de l'enfer. C'est de ce première classe dont parle ici Théophylacte. Il est évident qu'on vise, en tant que catholique, on vise le dernier degré de contrition, qu'on appelle la contrition parfaite, regretter ses péchés, non pas seulement par peur de l'enfer, mais regretter ses péchés par amour du bon Dieu. Il est évident que quand on regrette ses péchés par amour du bon Dieu, on regrette aussi également ses péchés par peur de l'enfer. Donc la peur de l'enfer est contenue dans l'amour du bon Dieu. Il est évident aussi, ça c'est très important à comprendre, qu'il n'est pas possible en général pour un homme de passer sa vie en état de grâce si l'unique motif du fait qu'il évite le péché, c'est la peur de l'enfer. Ça ne suffit pas, il faut rajouter l'amour du bon Dieu. Deuxième classe, dit Théophylacte, donc première classe c'est ceux qui font le bien par seule crainte du jugement, c'est la contrition imparfaite. Deuxième classe, les mercenaires sont ceux qui cherchent à plaire à Dieu par le désir des biens qu'ils espèrent recevoir. Donc ils agissent de façon intéressée. Et ici, Théophylacte cite David, « J'ai incliné mon cœur à pratiquer vos commandements à cause de la récompense. » Donc, troisième classe, les enfants sont ceux qui accomplissent les commandements par amour pour Dieu. Là, on est dans ce qu'on appelle la contrition parfaite, le regret des péchés par amour de Dieu. Donc à ce moment-là, on dit avec David, combien j'ai aimé votre loi tous les jours et l'objet de mes méditations. Donc il faut demander au bon Dieu cette grâce, parce que c'en est une, de regretter ses péchés par amour du bon Dieu. Et c'est la seule grâce, c'est la seule possibilité d'avoir une paix durable, une paix, une joie durable dans notre âme, parce que j'évite le péché, pas simplement de façon négative, parce que j'ai peur de l'enfer, mais par amour du bon Dieu. Si, il y a une belle phrase des pères, j'aime beaucoup. Prêter à intérêt au Christ, c'est là une usure avantageuse et honorable. Avec une faute d'orthographe qu'il faut que je corrige. Prêter à intérêt au Christ, c'est là une usure avantageuse et honorable. Autant l'usure est quelque chose de mauvais. Par contre, si j'utilise l'usure pour la gloire du bon Dieu, à ce moment-là, les choses sont complètement différentes. C'est-à-dire que lorsque je prête quelque chose à Dieu, Dieu va me rendre au centuple, celui qui donne complètement sa vie au bon Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît, nous dit notre Seigneur. Donc si je vis une vie en état de grâce, Dieu me récompensera amplement de mes efforts. On avance dans ce chapitre 15 avec le verset numéro 12 du chapitre 15. Le plus jeune des deux dit à son père, « Mon père, donnez-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Donc le premier demande la part d'héritage et malheureusement, le père a été obligé, à cause de la loi du pays, qui devait déjà être un peu stupide à l'époque, et bien à cause de la loi du pays, il était obligé de donner la part de l'héritage au plus jeune, tout en sachant très bien que le plus jeune va vite gaspiller cet héritage. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bien qui doit revenir au plus jeune? Voilà les explications données par les pères. D'après saint Ambroise, ce bien en question, c'est la grâce du bon Dieu. Les vertus et les bonnes habitudes qui sont détruites et gaspillées par le pécheur, alors que sa volonté propre ne peut être perdue. Donc c'est pour ça que ce bien va être dilapidé très rapidement, en vivant selon l'esprit du monde. Et donc c'est le symbole de la personne qui est baptisée, qui a reçu la grâce de la charité, qui va perdre les bénéfices de cette grâce, de cette charité, en vivant selon les préceptes du monde. C'est évident qu'on ne peut pas mettre ensemble les préceptes du monde et les préceptes de notre Seigneur Jésus-Christ. Les préceptes du monde, c'est tout simple, c'est liberté, égalité, fraternité. Les préceptes de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la foi, l'espérance et la charité qui vont se manifester par la pauvreté, la chasteté, l'obéissance. Il est évident que les deux choses sont totalement différentes. Donc ce bien dont parle l'Évangile, donnez-moi la part de bien qui doit me revenir, ce bien représente aussi tous les dons de Dieu, du corps et de l'âme, de nature et de grâce. Le plus jeune fils ne voulait plus être soumis à l'autorité de son père, mais voulait être son propre maître, libre d'abuser des dons de Dieu. Il est évident que lorsque on veut sa propre liberté, on perd la protection de ses supérieurs. Tant qu'un enfant est sous la protection de son père, protection de ses parents, eh bien, il est protégé par le fait même, parce que les supérieurs, les parents vont veiller à ce que le fils ne fasse pas de bêtises. Mais malheureusement, dès que le fils veut prendre son indépendance, eh bien, il n'aura plus de protecteur. Je raconte toujours, quand j'explique ce point-là à des jeunes, à des enfants surtout, parce qu'il faut leur en parler, j'ai toujours une petite histoire, toujours la même, qui est assez connue, parce que je l'ai souvent expliquée aux enfants. C'est l'histoire de Fifi le perroquet, que je raconte tout le temps. Et les enfants, ils se rappellent de cette histoire, je vous assure qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Et à tel point que quand j'étais professeur en école, on m'avait donné comme surnom, je savais que derrière mon dos, les enfants m'appelaient Fifi. Justement à cause de cette histoire du perroquet. Donc c'est l'histoire d'un perroquet qui vit dans une cage. Et sa maîtresse s'occupe bien de lui, elle lui change son eau tous les jours, lui met des nouvelles graines, elle est à manger, il a quelqu'un qui s'occupe bien de lui, mais il est dans une cage. Alors il voudrait bien sortir de la cage et avoir sa liberté. Alors il demande à sa maîtresse d'ouvrir la porte de la cage pour qu'il puisse voler et faire un peu ce qu'il veut. Et la maîtresse lui explique que dans la cage il est protégé. Et puis il n'a pas à chercher sa nourriture, tout lui est donné. On lui donne de l'eau, on lui donne des graines, il y a tout ce qu'il faut. Mais le petit perroquet, malheureusement contaminé par les idées modernes de liberté, d'égalité, de fraternité, il veut sa liberté. Et à force d'exiger sa liberté, sa maman, sa maîtresse, lui donne, a décidé de lui donner une leçon et ouvre la porte de la cage. En disant, très bien, je te préviens, ça va pas être facile pour toi parce qu'ici tu es protégé, mais si j'ouvre la porte de la cage, tu vas être libre, mais tu ne seras plus protégé. Donc ce sera beaucoup plus dangereux pour toi. Mais le perroquet, malheureusement, contaminé par les idées modernes, n'écoute pas sa maîtresse. Donc la maîtresse, contrainte et forcée en quelque sorte, ouvre la porte de la cage, le petit perroquet s'en va. Il part il quitte la maison par la fenêtre et puis il se sauve dans le jardin, il est tout content parce qu'il est libre. Alors au début, tout est merveilleux, tout est magnifique, il voltige d'arbre en arbre, il prend sa nourriture là où il veut dans le jardin, tout est magnifique. Alors, la première journée, tout se passe très bien, puis au bout de 24 heures, deuxième jour, il continue en espérant que les choses vont continuer dans cette bonne voie, mais malheureusement, il y a un aigle qui arrive, un épervier qui arrive, et qui voit ce petit perroquet qui est tout seul et qui est bien imprudent. Alors il dit, chouette, j'ai mon petit déjeuner qui arrive. Alors le petit perroquet, Fifi, il pense pas du tout à l'épervier qui est au-dessus de lui. D'un seul coup, il lève le nez, qu'est-ce qu'il voit? Il voit cet épervier qui se précipite du haut du ciel avec les serres bien en avant pour se saisir du perroquet et le croquer tout vif. Alors le perroquet se rend compte qu'il a un danger terrible, donc il se précipite vers la maison pour aller se protéger dans la maison de sa maîtresse. Malheureusement, la fenêtre est fermée, il ne peut pas rentrer. Alors il piaille, il crie, il trépigne, il tape de son bec sur le carreau. Heureusement, la maîtresse est dans la maison, elle va ouvrir la porte, la fenêtre plus exactement. Alors le petit perroquet se précipite dans la maison, la maîtresse, ferme la fenêtre, et du coup, l'épervier, il est obligé de jeûner, il n'y a pas de petit déjeuner pour lui. Alors la maîtresse replace le petit perroquet Fifi dans sa cage, et là il a compris que dans sa cage il était préservé. Ben, c'est exactement cette histoire, quelle histoire de tous nos enfants malheureusement, ils veulent leur liberté, ils ne se rendent pas compte qu'une fois qu'ils sont dans le monde moderne, ils ont la liberté, mais ils ont surtout la liberté d'offenser le bon Dieu, la liberté de pécher. Et cette liberté de pécher, cette liberté d'offenser le bon Dieu, c'est une imperfection. Donc attention. Donc c'est pour cela que saint Ambroisie, le plus jeune fils, ne voulait plus être soumis à l'autorité de son père, mais voulait être son propre maître, libre d'abuser des dons de Dieu. Combien sont nombreux ceux qui veulent justement abuser des dons du bon Dieu et qui comptent sur la miséricorde du bon Dieu, qui ne se rendent pas compte que pour utiliser la miséricorde du bon Dieu, il faut vivre un tas de grâces. Où il faut être prêt à vivre en état de grâce. Le bon Dieu ne pardonne pas au pécheur qui n'est pas repentant, il pardonne au pécheur repentant. Et c'est un des crimes de l'Église de Vatican II, c'est d'avoir fait croire que le bon Dieu est plein de miséricorde pour tous les pécheurs, sans qu'ils aient à se convertir. Attention, la conversion est nécessaire. Alors, c'est bien, dans certains textes, certaines traductions, on utilise le terme « substance ». Donnez-moi la part de substance qui doit me revenir. Le bien, la substance, c'est un peu la même chose. C'est la capacité, disent les pères, de la raison qui accompagne la volonté propre. C'est le ciel, la terre, la nature universelle, la loi, les prophètes. Et c'est cette substance qui va être gaspillée. Le jeune va quitter sa maison, première chose qu'il va faire, dès qu'il a quitté la maison paternelle, première chose qui va se passer, c'est qu'il va perdre la grâce du bon Dieu. Il va perdre donc l'amitié du bon Dieu, il va couper le cordon ombilical qui l'unit à notre Seigneur Jésus-Christ, ça va être des catastrophes. Quiconque, disent les pères, veut être comme Dieu et prendre sa force, ne doit donc pas s'en éloigner, mais se coller à lui, afin de préserver l'image et la ressemblance par laquelle il a été fait. Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette image, cette ressemblance de Dieu? C'est une belle comparaison des pères de l'Église qu'on trouve dans le livre de la Genèse. L'homme a été créé par Dieu à son image, à sa ressemblance. Ça veut dire l'image de Dieu. L'image de Dieu, l'homme a été créé à l'image de Dieu à cause de la présence de son âme. Il a en lui une substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté, capable de connaître Dieu et de le posséder parce qu'elle est immortelle. Donc cette image, tous les hommes l'ont. Tous les hommes sont les créatures de Dieu. Tous les hommes sont créés à l'image de Dieu. Mais pour certains, quelque chose qui se rajoute, c'est la ressemblance. L'image est une chose, la ressemblance se rajoute à l'image. Qu'est-ce que c'est que la ressemblance? La ressemblance, c'est quelque chose qui passe au-dessus de la nature. L'image de Dieu en l'âme, c'est quelque chose de naturel, puisque l'âme est une partie de notre nature humaine. Tous les hommes ont un corps avec une forme qui donne la vie à ce corps. Cette forme du corps, c'est l'âme. Donc tous les hommes sont créés à l'image de Dieu, tous. Cependant, pour certains, Dieu rajoute quelque chose. C'est quelque chose qui est rajouté, c'est la ressemblance. La ressemblance, c'est quoi? C'est la vertu de charité, donnée par le baptême. Et donc, l'image vient du fait qu'on est créature de Dieu. Les hommes sont les créatures de Dieu, des créatures raisonnables de Dieu. Et la ressemblance se rajoute à cet élément naturel qui est l'âme, je viens de l'expliquer. Et c'est un élément surnaturel qui se rajoute et donné par le baptême. Et c'est ce qu'on appelle le caractère du baptême. Et ce caractère du baptême rajoute quelque chose à la créature. La créature, en tant que créature et image de Dieu, mais si elle est baptisée, elle devient enfant de Dieu. Et parce qu'elle devient enfant de Dieu, elle est créée à ce moment-là non seulement à l'image, par l'existence de l'âme, mais créée aussi à la ressemblance de Dieu par le fait qu'elle est baptisée, qu'elle devient enfant de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de capital. Vous savez qu'une des grandes hérésies de Bergoglio, il le répète tout le temps maintenant, c'est de prétendre que tous les enfants sont des enfants de Dieu. Bergoglio a eu le culot de dire que les musulmans, par exemple, sont des enfants de Dieu. Ils jouent sur les mots en essayant de faire croire que créature et enfant de Dieu, c'est la même chose. Les musulmans sont des créatures de Dieu, c'est évident, parce qu'ils ont une âme. Donc c'est des créatures rationnelles, raisonnables de Dieu. Mais les musulmans qui n'ont pas le baptême ne sont pas des enfants de Dieu. Donc de dire que les musulmans sont des enfants de Dieu, c'est un blasphème épouvantable. C'est une hérésie énorme. Donc attention à ça. Il faut bien expliquer qu'il y a l'obligation pour pouvoir être au ciel d'être enfant de Dieu. Il n'y a que les enfants de Dieu qui peuvent rentrer au ciel. Quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu ne peut pas aller au ciel. C'est absolument impossible. Je reprends cette phrase qui est importante. Il faut donc se coller à Dieu afin de préserver l'image et les ressemblances par lesquelles l'homme a été fait. Donc on est collé à Dieu par l'image, l'existence de l'âme en nous, l'âme qui est naturelle à l'homme, et quelque chose de spirituel, et la ressemblance de Dieu. La ressemblance à Dieu, c'est le caractère du baptême qui fait l'âme créer. Le fait que nous sommes créatures de Dieu, créatures raisonnables de Dieu, la ressemblance rajoute une deuxième chose bien plus importante. De créatures, nous devenons enfants de Dieu. Toutes les créatures ne sont pas enfants de Dieu, mais toutes les âmes baptisées sont enfants de Dieu. Il faut noter aussi que même si une âme tombe dans le péché mortel, elle garde son caractère d'enfant de Dieu, puisque le caractère du baptême est irrémissible, est inamovible. C'est une marque indélébile. Donc à partir du moment où on est baptisé, on garde cette marque d'enfant de Dieu tout le temps. Donc attention, ça ne suffit pas d'être un enfant de Dieu pour aller au ciel. Certes, il n'y a que les enfants de Dieu qui peuvent aller au ciel, mais être enfant de Dieu, ça veut dire que je suis baptisé. Parce que je suis baptisé, je suis enfant de Dieu, mais ce n'est pas parce que je suis enfant de Dieu que ça veut dire que je suis en état de grâce. puisqu'il y a malheureusement des millions d'enfants de Dieu, des gens, des âmes qui sont baptisées par le baptême d'eau, par exemple, qui donc sont enfants de Dieu par le baptême, mais qui vivent dans le péché mortel, et donc qui n'ont pas la vertu de charité. Donc on commence par l'image de Dieu, le fait qu'on a une âme, puis la ressemblance de Dieu, le fait qu'on devient enfant de Dieu par le baptême, mais il faut garder cette charité qui nous est donnée, conférée par le baptême. Et si je ne fais pas attention, je vais perdre ce caractère, non pas le caractère, qui lui est inamovible, qui peut être effacé, mais il faut que ce caractère m'aide à garder la grâce sanctifiante. Donc la condition sine qua non pour entrer au ciel, c'est pas d'avoir une âme, ni d'avoir le caractère du baptême, mais d'être en état de grâce le jour de notre mort. Et si vous voulez être en état de grâce de façon certaine le jour de votre mort, il n'y a qu'une solution, c'est de vivre en état de grâce, parce que l'arbre tombe toujours du côté où il penche. Donc attention à ces choses-là. Donc si l'homme cherche à imiter Dieu de manière perverse, il va chercher à exercer son propre pouvoir pour vivre sans règles, selon sa volonté propre. Et donc il perdra alors toute sa chaleur, et va vivre dans le froid. S'éloignant de la vérité, il disparaîtra. C'est comme un glaçon qui va fondre au soleil. Et puis il ne restera plus que de l'eau qui va s'évaporer avec la chaleur du soleil. Finalement, il ne restera plus rien. Alors, verset 13 du chapitre 15. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant donc rassemblé tout ce qu'il avait, partit pour un pays étranger et lointain. Et là, il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Alors, les pères de l'Église se posent la question de savoir qu'est-ce que c'est que ce pays lointain, qu'est-ce que ça représente ? Il dissipa son bien, ça veut dire quoi ? Que ce jeune homme qui quitte le foyer paternel, qui quitte l'église, donc, sa maison surnaturelle, l'église, va perdre son bien, va perdre l'état de grâce, parce qu'il va vivre comme les païens. Et donc, il va partir dans ce pays lointain, ça veut dire qu'il va pas quitter un pays dans lequel Dieu est maître, pour passer dans un autre pays dans lequel le monde, le démon, est maître. Donc ce pays lointain signifie l'oubli de Dieu. Peu après l'institution de la race humaine, l'âme de l'homme choisit avec sa volonté propre d'abandonner celui par qui il fut créé. Comptant sur ses propres forces, il va gaspiller tous les dons de Dieu parce qu'il l'a abandonné. Malheur à celui qui perd la chose la plus importante qu'il a, à savoir l'existence en lui de la vertu de charité. La vertu de charité, c'est un trésor inestimable. Mais celui qui porte la vertu de charité, un trésor inestimable, sans protection, qui a un magnifique diamant, par exemple, qui s'amuse à se promener dans la rue avec le diamant à la main, en le montrant à tout le monde, il va prendre un coup sur la tête et il va se faire voler le diamant. Donc attention à ça, ne pas oublier que je suis sur la terre pour aller au ciel. Et la condition pour aller au ciel, c'est l'existence en moi de la vertu de charité le jour où je meurs. La vertu de charité, c'est l'habitude de la présence de Dieu. C'est pour ça qu'on appelle cette vertu de charité la grâce habituelle. La grâce habituelle, c'est l'habitude de la grâce de Dieu qui malheureusement va se perdre par le péché. Alors avançons dans ce texte qui est très beau, en bas de la page 40, verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils, donc ayant rassemblé tout ce qu'il avait, partit pour un pays étranger lointain. Alors, d'autres explications de ce terme, le pays lointain, c'est l'abandon mutuel de Dieu et du pécheur. On part dans un pays lointain quand on coupe le cordon ombilical qui me réunit à Dieu. Le pécheur alors oublie Dieu et Dieu à son tour oublie le pécheur. Ne cessant de le guider et de lui accorder la lumière, en cessant de le guider et de lui accorder la lumière et la grâce. Nous sommes avec Dieu ou loin de lui selon nos dispositions. Notons que même si Dieu se coupe de moi par le péché mortel, par mon péché mortel, Dieu m'enlève sa lumière et sa grâce. Cependant, Dieu garde toujours un amour pour le pécheur et va donner à ce pécheur des grâces actuelles dont il a besoin pour qu'il puisse se repentir de son péché, de pécheur qu'il est, devenir pécheur repentant. Et si je deviens de pécheur que j'étais, je deviens pécheur repentant, alors le bon Dieu va me tirer du péché et me sortir de la tête de la boue dans laquelle je m'étais enfoncé jusqu'au cou. Donc attention à ça, ne jamais oublier que la condition sine qua non pour aller au ciel, c'est l'état de grâce. Si je n'ai pas l'état de grâce, tout ce que je fais, ça ne vaut plus rien. Je perds tous les mérites que j'ai acquis par le simple péché mortel. Un seul péché mortel me fait perdre tous les mérites acquis, même si j'en ai acquis des milliers et des milliers. Même si j'ai donné ma vie, c'est ce que dit saint Paul, hein, dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 13, même si je donne ma vie pour les autres, même si je fais brûler mon corps pour le prochain, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien, je suis comme une cymbale qui retentit au loin parce qu'il manque l'essentiel. Donc, page 41 maintenant, en haut de la page, d'autres explications des autres pères de l'Église sur ce terme. Donc, il dissipa son bien dans un pays lointain. Voilà le texte. Le jeune fils, ayant rassemblé tout ce qu'il avait, partit pour un pays lointain. Et là, il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Donc, c'est bien le bien qui est perdu, c'est bien le bien surnaturel, c'est-à-dire la grâce du bon Dieu. La grâce du bon Dieu qui est un bien surnaturel qui se rajoute à la nature. On ne peut pas perdre le bien naturel. Même quelqu'un qui vit dans la débauche la plus complète garde une âme. Il garde les pouvoirs de son âme. Il garde une intelligence, une volonté, un concupiscible et un irascible. Mais il a perdu la charité. Donc, explication du terme, page 41 en haut de la page, dit « Il dissipa son bien, le pécheur, disent les pères, en se donnant au plaisir à la vie licencieuse, va perdre les dons de nature et de grâce. » Pourquoi ? Parce qu'il a perdu la vertu de charité. Il lui devient difficile de comprendre, il n'est pas plus capable de reconnaître Dieu ou la beauté de la sainteté. Il oublie la loi divine et la bonté de Dieu à son égard. Sa volonté est corrompue au point de préférer la vie à la vertu, le plaisir à la raison, la terre au ciel, le démon à Dieu. Oubliant le chemin de la vertu, il se donne à tous les maux. Le plus grand des malheurs qui puissent nous arriver, c'est d'avoir perdu la grâce du bon Dieu. Donc quand je perds la grâce du bon Dieu, je dissipe le bien que j'ai reçu. Et n'oublions pas que ce bien que j'ai reçu, qui est la grâce du baptême, eh bien, ce bien est un don gratuit de bon Dieu dont je suis responsable. Et donc, ce bien, en fait, strictement parlant, appartient à Dieu. Je ne suis pas propriétaire de mon âme. J'utilise mon âme, mais je suis en quelque sorte locataire de cette âme. Mais j'aurai à rendre compte de quelque chose qui ne m'appartient pas. Et puisque cette chose ne m'appartient pas, il va falloir que je la rende. Et j'ai intérêt à la rendre dans le même état dans lequel je l'ai reçue. Le jour de mon baptême, mon âme a été illuminée par la grâce sanctifiante. Donc c'est à moi de garder cette lumière de la grâce et ne pas la perdre. Et si elle s'est éteinte, de rallumer ma lampe à huile le plus rapidement possible pour ne pas perdre de temps. Donc celui qui dissipe son bien, disent les pères, se destitue lui-même du conseil, de la raison, du bon sens et de tout ce qui est bon. Toutes les forces de son âme et de son corps, il adore la créature au lieu du créateur et tombe dans le péché d'idolâtrie. C'est ça l'idolâtrie. Tout péché est une forme d'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie ? L'idolâtrie, c'est l'adoration de la créature à la place de Dieu. C'est l'adoration d'un faux Dieu. Mais à chaque fois que j'ai commis un péché mortel, je demande à Dieu qui est dans mon âme par l'état de grâce de quitter ma maison. Je vous la porte en disant, écoutez mon Dieu, je vous aime bien, mais là vous me dérangez parce que j'ai d'autres choses plus importantes à faire et votre présence me gêne. Alors s'il vous plaît, vous partez. On ouvre la porte, on met le bon Dieu dehors. Et par cette même porte que je viens d'ouvrir, par laquelle notre Seigneur Jésus-Christ a quitté mon âme, je fais rentrer une créature, quelle qu'elle soit. Ça peut être une bouteille de vin, ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être n'importe quoi. Et ce n'importe quoi qui prend la place du bon Dieu dans mon âme devient mon nouveau Dieu. Donc c'est un péché d'idolâtrie. Ainsi, dans tout péché mortel, il y a une certaine forme d'idolâtrie. Donc attention à ne pas oublier ça. Malheur à celui qui reste dans le péché mortel pendant longtemps. Parce que lorsque le démon rentre dans une âme, la première chose qu'il va faire, c'est essayer d'établir des racines qui s'enfoncent dans les profondeurs de l'âme. Et lorsque les racines sont très profondes, on ne peut plus les arracher. Comme un jardinier qui doit vérifier que ses plates-bandes sont propres. Et ne sont pas envahis par les mauvaises herbes. S'il voit tous les matins, il fait le tour du propriétaire pour vérifier que ses plates-bandes sont propres. Et s'il voit une petite mauvaise herbe, qu'est-ce qu'il fait ? Il l'arrache tout de suite, il n'y a pas de problème. Mais s'il attend pendant une semaine avant de prendre soin de son jardin, la petite mauvaise herbe qui fait quelques millimètres de haut, elle fait 5 ou 10 centimètres du coup. Elle est plus difficile à arracher, on peut encore l'arracher. Et si au contraire, il ne vient faire le tour du propriétaire qu'une fois par mois, au bout d'un mois, la petite mauvaise herbe de quelques millimètres, elle fait plus 5 ou 10 centimètres, la petite herbe toute petite, elle est devenue un arbuste. Il faut tirer comme un seau pour arriver à l'arracher. Et imaginez quelqu'un qui vient faire le tour du propriétaire, un jardinier qui est paresseux et qui, au lieu de s'occuper avec soin de son jardin, vient dans son jardin qu'une fois par an pour enlever les mauvaises herbes. Mais c'est plus un arbuste qu'il a dans sa plate-bande. C'est un arbre. Un arbrisseau, impossible à enlever. Les racines sont trop profondes. C'est pareil pour nous. Donc je dois faire très attention à ne pas laisser le démon établir ses racines. D'où la nécessité de l'examen de conscience. L'examen général de conscience tous les soirs pour analyser les péchés de la journée et les examens particuliers, si je connais mon péché particulier, pour bien lutter contre une faille dans le rempart de protection autour de mon âme, faille qui permet au démon de rentrer dans mon âme et faire des dégâts à l'intérieur. Donc attention, ce péché d'idolâtrie, absolument comprendre que le péché d'idolâtrie est provoqué, en fin de compte, par n'importe quel péché grave. Souvent, quand on parle de l'idolâtrie, pardon, les gens nous rient au nez en disant, mais moi, je tombe jamais dans l'idolâtrie. Parce que dès qu'on parle d'idolâtrie, les gens imaginent l'adoration des soleils, l'adoration des arbres, l'adoration des pierres ou je ne sais quoi, comme les païens d'ancien temps. Et on ne réalise pas du tout que l'idolâtrie, ce n'est pas simplement ça. Si je fais passer mon ordinateur avant le bon Dieu, c'est l'idolâtrie. Si le dimanche, je fais passer le match de football avant la messe. Et parce que je ne veux pas manquer mon match de football, je manque la sainte messe du dimanche. C'est un péché d'idolâtrie, c'est tout. J'ai mis le football au niveau du bon Dieu. Je place dans mon âme le football à la place du bon Dieu. Donc le football devient mon nouveau Dieu, c'est ça le péché d'idolâtrie. Quand je choisis délibérément d'aller contre la volonté du bon Dieu, je fais rentrer ma volonté propre et ma volonté propre devient le nouveau Dieu que j'adore. On avance, verset 14 du chapitre 15 de Saint-Luc. Mais après que ce jeune homme eut tout dépensé, il survint une grande famine dans ce pays-là. Il commença à être dans le besoin. On voit très bien que le bon Dieu qui mène tout, parce qu'il est Dieu, il peut tout faire, mais il va mener un petit peu, un peu comme un maître qui tient cette petite marionnette avec ses ficelles et qui bouge la marionnette par les ficelles. Le bon Dieu, il dirige tout. Et donc, il a pitié de ce jeune homme qui a tout envoyé promener, qui a dissipé son bien en vivant dans la débauche, et pour l'obliger à revenir en lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va envoyer une famine dans le pays pour obliger ce jeune homme à être démuni de tout et se retrouver vraiment dans le besoin. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est dans le besoin, à ce moment, on se rend compte qu'on ne peut plus faire tout par nous-mêmes et on va chercher un peu conseil, on va chercher à ouvrir un petit peu les yeux pour se rendre compte de ce qu'on a perdu. Combien de personnes se sont converties parce qu'ils avaient une grosse épreuve qui leur est tombée dessus? Une épreuve de santé, par exemple. Beaucoup de gens qui vivaient dans la débauche la plus complète, qui avaient dissipé leurs biens en vivant dans la débauche, sont sortis du péché parce qu'un beau jour, ils se sont trouvés avec une. Positif à une maladie, avec un cancer, je ne sais quoi, et à ce moment-là, se rendant compte qu'ils sont en train de mourir, alors du coup, ils appellent le prêtre et ils mettent leur vie dans l'ordre, Deo gratias. Alors voyons un peu le sens mystique de ce verset 14. Le pécheur souffre, disent les pères, du manque de tout, don de nature et de grâce, car il tourne tous ses dons qu'il possédait à sa propre destruction. Et se retrouve donc dans une situation pire que s'il n'avait jamais reçu ses dons. Il vaut parfois mieux ne jamais avoir reçu ses dons plutôt que de les avoir reçus, d'avoir tout perdu après, parce qu'à ce moment on est plus responsable. Saint-Pierre, je crois, qu'il parle de la truie qui retourne dans sa boue, le chien qui retourne à son vomissement. Donc le pécheur qui a perdu Dieu manque donc de tout, car tout dépend de Dieu en qui tout a sa source. Puis les pères de l'Église précisent, en haut de la page 41, toute place où le Père est absent devient un lieu de pénurie, car celui qui n'a pas Dieu ne possède rien, fût-il le roi du monde. Celui qui a Dieu en lui possède toute chose, même s'il n'a pas un sou en poche. La famine représente donc l'absence de la parole de vérité. J'ai perdu l'essentiel parce que j'ai perdu la grâce du bon Dieu. Si j'ai la grâce du bon Dieu et que j'ai tout perdu, tout le reste, il me reste l'essentiel. Mais si j'ai tout le reste et que j'ai perdu la grâce du bon Dieu, j'ai perdu l'essentiel. Donc attention à ça. Est-ce que je suis convaincu de ces choses-là? Est-ce que j'ai compris que l'unique nécessaire, c'est la grâce du bon Dieu? Rappelez-vous ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile, que sert à l'homme de gagner le monde à Dieu s'il vient à perdre son âme? Donc attention. Donc cette famine dans laquelle est tombé ce jeune homme, qui se retrouve dans le besoin, représente la perte, justement, la conséquence de la perte de la parole de vérité, la perte de l'état de grâce. J'ai perdu l'état de grâce en dissipant mon bien, en vivant dans la débauche, et du coup, je me retrouve dans la famine parce que mon âme, dans la famine, pardon, parce que mon âme ne peut plus survivre par elle-même. Il n'y a plus rien pour nourrir mon âme. Nous avançons avec le verset 15. Donc ce jeune homme qui a dissipé son bien, qui commence à être dans le besoin à cause de la famine dans le pays, alla donc et s'attacha au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans sa maison des champs pour garder les pourceaux, garder les cochons. Notons que pour un juif, c'est la pire des humiliations, parce que le juif considère le cochon comme un animal impur. Donc aller garder les cochons, c'est la pire qui puisse arriver à un juif. Donc, voilà ce que disent les pères. Commentaire de ce verset 15. Il se joint à un certain prince des airs appartenant à l'armée du démon, dont les champs représentent son pouvoir. Donc, les pourceaux sont les esprits impurs et on les nourrit quand on fait ce qui leur plaît. Quand je quitte la grâce sanctifiante, mon champ devient une jachère. Le démon peut rentrer et faire ce qu'il veut dans la jachère. Il peut y planter ce qu'il veut. C'est l'ennemi qui vient dans la nuit et plante dans le champ de blé, il va planter de la zizanie, planter de l'ivraie. Et donc l'ivraie va pousser avec le bon grain et l'ivraie va tuer le bon grain. Au bout d'un certain temps, il n'y a plus de bon grain qui pousse dans le champ, il n'y a que l'ivraie. Mais là, c'est la même chose. Donc ces esprits impurs sont nourris par l'usage de ma volonté propre. Dès que je refuse de faire la volonté du bon Dieu et que je suis ma volonté propre, je me mets à nourrir les pourceaux dans mon âme. L'habitant du pays qui en est le prince. Donc l'habitant du pays en est le prince. Les mauvais désirs non contrôlés transforment un citoyen en étranger, un fils en mercenaire, un homme riche en mendiant, un homme libre en esclave. Ce jeune homme était libre dans la maison de son père. Il avait une loi à suivre. Il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait, mais il avait une véritable liberté. Au contraire, lorsqu'il quitte cette maison paternelle, il a l'impression de trouver la liberté, en fait, il trouve l'esclavage. Quand je dissipe mon bien en vivant dans la débauche, je pense être libre. J'ai le droit de faire ce que je veux, vais-je dire. Et je ne me rends même plus compte que je ne suis plus libre, parce qu'en fait, je suis devenu un esclave, esclave du démon. Et je me mets à suivre celui que je sers. Donc les mauvais désirs non contrôlés transforment un citoyen en étranger, un fils en mercenaire, un homme riche en mendiant, un homme libre en esclave. Quand je suis baptisé et que je vis en état de grâce, je suis un homme libre. Si je tombe dans le péché, je deviens esclave. Esclave du démon. Donc le démon va me faire croire que je trouve ma liberté en vivant dans le péché. Et en fin de compte, le péché, c'est une chaîne qui va me maintenir dans l'esclavage. Alors les pères de l'Église expliquent cette explication magnifique. On nourrit les pourceaux. Donc il a dit que ce jeune homme, le seul travail qu'il a trouvé, c'est de garder les pourceaux, les nourrir. On nourrit les pourceaux quand on nourrit notre âme des pensées sales et sordides. Le cochon représente le démon, mais il représente aussi tous les péchés, surtout les péchés d'impureté. Regardons comme la condition du pécheur a changé, comme juste punition de la folle utilisation de sa liberté. Celui qui ne voulait pas être honoré comme fils devient l'esclave attitré d'un étranger. Ce serait déjà une chose d'être esclave attitré d'une personne de grande valeur. Si je devenais esclave attitré de mon roi, ça irait encore. Mais là, il devient esclave attitré d'un étranger. Donc je perds littéralement ma qualité de citoyen comme futur habitant du ciel pour devenir citoyen du démon. Je change de camp. J'étais dans le camp de notre Seigneur Jésus-Christ, mais en vivant dans le péché, je passe dans le camp du démon. Et les pères vont expliquer par ces quatre points très beaux, celui qui ne voulait pas obéir aux lois de Dieu est obligé de servir Satan. Donc j'avais la possibilité de servir librement Dieu, librement le Seigneur. Librement, celui qui m'a créé, qui m'a tout donné. Et maintenant, je vais passer de cet état de liberté dans lequel j'étais, liberté de servir Dieu, pour passer dans l'état d'esclavage, et je vais être obligé de servir le démon. Je servais Dieu librement. On ne sert pas Dieu. On sert Dieu librement. On ne peut pas servir le démon librement. Parce que celui qui sert le démon devient immédiatement son esclave. Autre phrase des pères, encore des phrases très belles, celui qui ne voulait pas habiter dans le palais de son père est envoyé habiter parmi les clowns, disent les pères. Celui qui ne voulait pas s'associer avec ses frères, avec les princes, devient le compagnon des pourceaux. Enfin, celui qui refusa le pain des anges devra se satisfaire des gousses que les pourceaux mangeaient. Donc en habitant avec les gens du monde, je vais prendre les habitudes des gens du monde. Celui qui habite dans une poubelle va finir par sentir mauvais, et si je me laisse envahir par cette puanteur sans chercher à lutter contre ça, je vais devenir moi-même une partie de ces ordures. C'est une chose d'être dans une poubelle contraint et forcé et d'essayer de garder la grâce sanctifiante dans la poubelle, c'en est une autre, de devenir participation, devenir une part totale des ordures qui remplissent la poubelle. Donc celui qui refuse le pain des anges devra se satisfaire des gousses que les pourceaux mangeaient. Qu'est-ce qu'ils mangent les pourceaux? Liberté, égalité, fraternité. Qu'est-ce que mangent les anges de Dieu? Pauvreté, chasteté, obéissance. Vous voyez, on voit très bien qu'il y a là un double monde, soit le monde du démon, soit le monde de notre Seigneur Jésus-Christ, soit le monde de la volonté propre, soit le monde de la volonté divine qui vient prendre la place de ma volonté propre. Selon saint Bède les Vénérables, ces gousses donc, que je dois utiliser pour nourrir les cochons, ces gousses alourdissent plutôt qu'elles ne nourrissent et ne rafraîchissent. Elles symbolisent l'enseignement du monde qui crie lourdement par vanité. Donc les gousses, si vous voulez, c'est le symbole du démon qui m'enfonce la terre sous la boue, parce que les pourceaux vivent dans la boue. Donc le père de ces deux fils, nous disent les pères, est Dieu. Le premier a toujours été juste, le deuxième est celui qui ramenait la justice par la repentance. N'oublions pas qu'il n'y a que deux voies pour aller au ciel. La voie d'innocence, la voie de repentance. Si j'ai commis le moindre péché, même un simple péché mortel, la voie d'innocence est fermée pour moi définitivement. Il n'y a plus que la voie de repentance. Donc notons, c'est le point très important de cette parabole, c'est que le jeune homme qui est parti dans un pays étranger et lointain, qui a dissipé son bien en vivant dans la débauche, peut revenir à la maison paternelle. D'ailleurs, c'est ce qu'il va faire, à condition de quitter la débauche dans laquelle il vit. Il ne peut pas prétendre revenir dans la maison paternelle en restant dans la débauche, ce n'est pas possible. Donc, selon saint Jean Chrysostome, le Père divisa également ses biens entre ses deux fils, c'est-à-dire la connaissance du bien et du mal, qui est la possession véritable et éternelle pour l'âme qui l'utilise correctement. La raison qui coule de Dieu vers les hommes à leur première naissance est donnée également à tous ceux qui viennent dans ce monde, mais après un temps, chacun est trouvé en posséder plus ou moins. Dieu respecte notre libre arbitre, c'est ça le drame. Dieu ne veut que tous les hommes soient sauvés. Mais il respecte notre libre arbitre. Il respecte notre volonté de refuser Dieu si je le veux. Et là, c'est bien le problème. Ce libre arbitre n'existera plus au ciel, heureusement d'ailleurs. Une fois que je suis au ciel, je n'ai plus de libre arbitre dans le sens que je n'ai plus la possibilité de quitter le ciel, de perdre le ciel par le péché. Heureusement, vous rendez compte, si au ciel on avait encore la possibilité d'utiliser mal notre liberté et de perdre le bon Dieu par un péché, on ne serait jamais sûr de rester au ciel. Une fois qu'on est au ciel, on n'est plus dans le temps, on est dans l'éternité, donc il n'y a plus de possibilité de changement. J'y suis au ciel, j'y suis pour toute l'éternité. C'est pareil pour l'enfer, hélas. La liberté de volonté est montrée par le fait, disent les pères, que le père n'empêcha pas son fils de partir, ni n'obligea l'autre à partir également, pour ne pas faire croire qu'il était l'auteur des maux qui allaient arriver. Ça, c'est très important à comprendre. Le père de famille aurait pu demander de son fils de partir et de récupérer la part de son héritage. Le père de famille aurait pu enfermer son jeune fils qui avait besoin d'une punition à double tour dans une chambre pour l'empêcher de faire des bêtises. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe, parce que Dieu respecte notre libre arbitre. Et là, si je veux refuser Dieu, j'ai hélas la possibilité de le faire et de tout perdre. Le jeune fils donc détourna son cœur et partit en voyage dans un pays lointain. Au lieu d'attacher mon cœur à notre Seigneur Jésus-Christ, aux choses qui durent, j'attache mon cœur aux choses qui passent. Voilà pourquoi, lorsque j'attache mon cœur aux choses qui passent, ben je deviens comme un démon, parce que je vis avec les cochons, avec les pourceaux, et je prends en moi les habitudes des pourceaux. Je vais moi-même me mettre à manger les gousses, et c'est-à-dire vivre dans la boue jusqu'au cou. Autre passage, Saint Ambroise cette fois-ci, l'évêque de Milan. On est encore plus loin de soi-même quand on est séparé par les habitudes de vie. Ce sont les habitudes de vie, le vice qui passe dans notre vie, qui nous coupe définitivement notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous coupe au moins complètement notre Seigneur Jésus-Christ tant que je ne reviens pas à lui. Mais le problème, c'est qu'une fois que je suis tombé dans le vide, je ne peux pas revenir à notre Seigneur Jésus-Christ, je ne peux pas revenir à la maison paternelle sans une grâce particulière du bon Dieu. Attention, n'oublions pas ça, mes bien chers frères. Si j'ai le malheur de commettre un péché mortel qui m'a fait perdre la grâce du bon Dieu, je ne peux pas revenir à Dieu par les propres forces de mon âme. Il faut une grâce particulière qu'on appelle une grâce actuelle. Je ne peux pas utiliser la grâce sanctifiante puisque je l'ai perdue. Par contre, Dieu, s'il le veut, peut me donner une grâce actuelle qui va me permettre de me convertir. C'est cette grâce actuelle qui a transformé le mauvais larron en bon larron. Le bon larron, c'est qui? C'est Saint Dismas qui va devenir un grand saint, tout simplement parce que Dieu lui a mis dans le cœur cette phrase extraordinaire: souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre royaume. Et Dieu va lui répondre: aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Donc Dieu a donné à Dismas la grâce actuelle pour qu'il regrette ses péchés, regrette sa vie pécamineuse. Mais notez que de l'autre côté de la croix, il y avait un autre homme qui lui aussi souffrait, justement de ses méfaits. C'était Gestas, celui qu'on appelle le mauvais larron. Et lui, il ne va pas recevoir la grâce. On peut se poser la question: pourquoi Dieu a-t-il donné sa grâce au bon larron, pas au mauvais? S'il avait donné la grâce au mauvais larron, il y aurait un Saint Gestas. Or, il n'y a qu'un Saint Dismas, il n'y a pas de Saint Gestas. Gestas s'est tombé vraisemblablement en enfer. Pourquoi? Parce que ça, c'est le mystère de Dieu. C'est un grand, grand mystère. Il ne faut pas chercher trop de réponses à ça, parce que c'est un tel mystère qu'on ne peut pas trouver de réponse. On touche là le mystère de la prédestination. Mais n'oublions pas que si quelqu'un sauve son âme, il sauve son âme parce qu'il a reçu des grâces particulières du bon Dieu. C'est grâce à Dieu si je vais au paradis. Par contre, si je tombe en enfer, c'est ma faute. Je ne peux pas dire je suis tombé en enfer parce que je n'ai pas reçu les grâces du bon Dieu. Donc celui qui est séparé du Christ est en exil, loin de son pays et un citoyen de ce monde. Qui quitte l'Église gaspille son héritage. L'héritage que j'ai... L'héritage que j'ai, c'est quoi? L'héritage que j'ai, c'est le ciel. Mais cet héritage, il est en puissance, il faut qu'il passe en pratique, il faut qu'il passe en acte, il passera en acte si je meurs en état de grâce. Donc, qui quitte l'Église gaspille son héritage. La famine est une famine de bonnes œuvres et de vertus qui est le plus terrible des jeûnes. Donc, cette famine, dans mon âme, représente la perte de la grâce sanctifiante. Celui qui quitte la parole de Dieu est affamé, car l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de chaque parole de Dieu. Quiconque quitte ses trésors, se retrouve en manque, car rien ne satisfait un esprit prodigue. Donc celui qui vit comme un enfant prodigue va perdre justement le désir de Dieu, le désir d'avoir une bonne nourriture spirituelle forte qui va nous permettre de rester en état de grâce. Il vient, si vous voulez, imaginer quelqu'un qui perd sa colonne vertébrale, et qui est incapable de se redresser parce qu'il n'y a plus de colonne vertébrale. Celui qui vit avec l'esprit du monde, avec les paroles du monde, avec les amours du monde, dans la liberté, l'égalité, la fraternité, est comme une nouille bouillie. Une nouille bouillie est incapable de tenir, essayer de faire tenir debout une nouille bouillie, c'est impossible, rien qui se passe. Page 42, en haut de la page, on va finir avec ces trois dernières lignes. L'enfant prodigue s'éloigne et s'attache à l'un des citoyens. Mais c'est un traquenard, car ce citoyen est le prince de ce monde, et le prodigue est envoyé à cette ferme achetée par ceux qui trouvent une excuse pour ne pas venir au banquet. Donc on donne ses services au nouveau propriétaire, on change de propriétaire en quelque sorte. Dans la maison paternelle, mon propriétaire c'était le bon Dieu. J'ai quitté le monde, je suis parti dissiper mon bien pour vivre dans la débauche, je change de propriétaire et je donne mon âme à celui qui est propriétaire. Je deviens pourceau et je donne mon âme au propriétaire des pourceaux. Et je vais être obligé de vivre comme les pourceaux qui vivent dans la boue du péché. Voilà, bien chers frères, ce qu'il faut arriver à comprendre. Vous voyez comme cette parabole est vraiment extraordinaire de beauté. Hein, donc, mais c'est pas terminé. Vous verrez qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur cette magnifique parabole, puisqu'elle va aller jusqu'à la fin du chapitre 15. Toute la fin du chapitre 15, c'est l'explication de cette parabole. Nous n'avons vu que la première partie. Il faudra encore un cours, peut-être même deux cours, pour finir cette parabole. Voilà, nous allons terminer par une prière. Ça fait déjà une heure que je vous parle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, nous rendons grâce pour tous vos bienfaits. Ô Dieu Tout-Puissant qui veux régner en tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.